Chapitre 2. S'agissait-il de votre malheureux enfant? Pourquoi la crête ensoleillée avait été baptisée ainsi, nul n'aurait pu le dire. C'était une demeure victorienne, relativement grande et en bon état, qui n'était bâtie sur aucune crête ni éminence d'aucune sorte. Le terrain alentour était plat, ce qui convenait beaucoup mieux à l'âge des occupants. Il s'y trouvait un jardin, de belles dimensions mais sans caractère particulier, et quelques arbres procurant une ombre salutaire. De la vigne vierge grimpait sur un côté de la maison et deux araucarias conféraient au paysage un petit air exotique. Quelques bancs étaient disposés pour prendre le soleil en des endroits propices, sans compter deux fauteuils de jardin et une véranda où les vieilles dames pouvaient rester assises à l'abri des vents de l'est. Tommy sonna à la porte et une jeune femme en blouse de nylon, à l'air épuisé, les introduisit dans les formes, Tuppence et lui. Après les avoir fait entrer dans un petit salon, elle leur dit, le souffle court, « Je vais prévenir Mademoiselle Packard. Elle vous attend et sera là dans une minute. Excusez-moi de vous laisser quelques instants, mais c'est la vieille Madame Carraway. Elle a encore une fois avalé son dé à coudre. Comment diable un accident pareil a-t-il pu lui arriver ?» s'exclama Tuppence, stupéfaite. « Elle fait ça pour s'amuser. » leur expliqua brièvement la jeune femme. « Elle recommence constamment. » Quand elle fut partie, Tuppence s'assit et déclara songeuse « Je ne pense pas que ça me plairait d'avaler un dé à coudre. Ça doit chahuter terriblement quand ça descend. Tu ne crois pas ?» Ils n'eurent cependant pas à patienter longtemps. Mademoiselle Packard entra bientôt en s'excusant. C'était une forte femme d'environ 50 ans, aux cheveux blonds, dont l'assurance tranquille avait toujours rempli Tommy d'admiration. « Je suis désolé de vous avoir fait attendre, Monsieur Beresford, » dit-elle. « Comment allez-vous, Madame Beresford? Je suis ravi que vous soyez venue aussi. »« Il paraît que quelqu'un a avalé quelque chose, » demanda Tommy. « Ah, c'est Marlène qui vous l'a dit. »« Oui, c'est la vieille Madame Carraway. Elle avale tout ce qui lui tombe sous la main. C'est difficile, vous savez, on ne peut pas les surveiller tout le temps. » Tout le monde sait bien sûr que c'est une manie chez les enfants, mais c'est plutôt bizarre de la part d'une personne d'un certain âge, non? Et c'est de pire en pire. Cela ne fait que s'accentuer chaque année. Mais le plus rassurant, c'est que ça n'a pas l'air de lui causer le moindre mal. Elle a peut-être eu un père à valeur de sabre, suggéra Tuppence. Voilà une idée intéressante, Madame Beresford. Cela pourrait être une explication. « J'ai prévenu Mademoiselle Fanshawe de votre arrivée, monsieur, poursuivit-elle, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait bien saisi. Elle ne comprend pas toujours ce qu'on lui dit, vous savez. »« Comment va-t-elle ces derniers temps ?»« Ma foi, elle baisse assez rapidement en ce moment, » répondit Mademoiselle Packard d'une voix tranquille. « Je lui ai dit hier soir que vous veniez, mais elle a prétendu que je me trompais certainement parce que c'était la rentrée. Elle avait l'air de penser que vous étiez toujours à l'école. » Pauvres vieilles créatures. Elles ont souvent les idées brouillées, surtout lorsque la notion de temps entre en jeu. En tout cas, ce matin, quand je lui ai rappelé votre visite, elle m'a rétorqué que c'était impossible parce que vous étiez mort. Mais bon, ajouta gaiement Mademoiselle Packard, j'imagine qu'elle vous reconnaîtra tout de même quand elle vous verra. Comment va sa santé? Stationnaire? Ma foi, elle est aussi bonne que possible. « Mais franchement, je ne pense pas qu'elle restera encore très longtemps parmi nous. Elle ne souffre d'aucune façon, mais son état sur le plan cardiaque ne s'est pas amélioré. Bien au contraire. Autant vous y préparer pour vous éviter un choc au cas où elle s'éteindrait brusquement. »« Nous lui avons apporté des fleurs, » dit Tuppence. « Et une boîte de chocolat, » ajouta Tommy. « Oh, c'est très gentil de votre part. Ça va lui faire très plaisir. Voulez-vous que nous montions maintenant ?» Tommy et Tuppence suivirent Mademoiselle Packard à l'étage. Dans le couloir, une porte s'ouvrit soudain devant une petite bonne femme d'1,50 m de haut qui sortit de sa chambre en trottinant et en criant d'une voix haut perchée « Mon cacao! Je veux mon cacao! Où est Jane? Je veux mon cacao !» Une femme en tenue d'infirmière surgit de la pièce voisine. « Voilà, voilà, mon petit, tout va bien. Vous l'avez eu, votre cacao? Il y a 20 minutes déjà !» « Non, je ne l'ai pas eu, ce n'est pas vrai, je n'ai pas eu mon cacao, j'ai soif !»« Bon, vous pouvez en avoir encore une tasse si vous voulez. »«
Je ne peux pas en avoir encore une puisque je n'en ai pas eu du tout. »
Ils continuèrent leur chemin et, au bout du couloir, après un coup bref frappé à une porte, Mademoiselle Paccard entra en disant gaiement « Nous voilà, mademoiselle, votre neveu est venu vous rendre visite. C'est gentil à lui, n'est-ce pas ?» La vieille dame qui se trouvait dans le lit, près de la fenêtre, se dressa brusquement sur ses oreillers. Elle avait des cheveux gris, un gros nez busqué au milieu d'un visage ridé et affichait une expression de désapprobation générale. Tommy s'avança. « Bonjour, tante Ada, comment vas-tu ? » Sans lui accorder la moindre attention, la tante Ada s'adressa à Mademoiselle Paccard. « Je me demande ce que vous avez en tête quand vous introduisez des messieurs dans la chambre d'une dame, » déclara-t-elle d'un ton rogue. « De mon temps, cela n'aurait pas été concevable. Et me raconter que c'est mon neveu, voyez-vous ça ? Qui est-ce, le plombier ou l'électricien ? Allons, allons. Ce n'est pas très gentil, » minauda Mademoiselle Paccard. « Je suis Thomas Beresford, ton neveu, » intervint Tommy. « Je t'ai apporté une boîte de chocolat, » ajouta-t-il en la lui tendant. « Vous ne m'aurez pas comme ça, » répliqua tante Ada. « Je les connais, les gens de votre espèce. Ils sont prêts à dire n'importe quoi. » « Mais qui est cette femme ? » demanda-t-elle en regardant Madame Beresford avec dégoût. « Prudence, » répondit Tupence. « Votre nièce, Prudence. » « Quel prénom ridicule !» remarqua tante Ada. « C'est un nom de femme de chambre. Mon grand-oncle Mathieu en avait une qui s'appelait Consolation, et sa femme de ménage c'était Réjouis-toi en Dieu, une méthodiste, bien sûr, pour qu'on les baptisait ainsi. Mais ma grand-tante Fanny n'a pas tardé à y mettre le holà. Elle lui a déclaré que tant qu'elle serait sous son toit, on l'appellerait Rebecca. « Je vous ai apporté quelques roses, » dit Tupence. « Je n'aime pas les fleurs dans une chambre de malade. Elles absorbent tout l'oxygène. » « Je vais les mettre dans un vase, » proposa Mademoiselle Paccard. « Vous ne ferez rien de tel. Je sais ce que je veux, vous devriez déjà l'avoir compris. »« Tu as l'air en pleine forme, tante Ada, » observa M. Beresford, « et même paré pour le combat. »« Soyez tranquille, je vois clair dans votre jeu. Où voulez-vous en venir en prétendant être mon neveu ? Comment vous appelez-vous déjà ? Thomas ? » ?»«
Oui, Thomas ou Tommy. »
« Jamais entendu parler de vous. Je n'ai eu qu'un seul neveu qui s'appelait William. Il est mort à la guerre. Une chance pour lui. Il aurait certainement mal tourné s'il avait vécu. » « Je suis fatigué, » déclara brusquement tante Ada en reposant la tête sur ses oreillers. « Emmenez-les, » dit-elle en s'adressant à Mademoiselle Paccard. « Vous ne devriez pas laisser entrer des étrangers dans ma chambre.
Je pensais qu'une petite visite vous distrairait un peu. » répondit Mademoiselle Paccard sans émotion. Tante Ada fit entendre une espèce de ricanement gras et profond. « Très bien, » fit gaiement Tupence, « nous allons partir. Je vous laisse les roses, vous changerez peut-être d'avis à leur sujet. »«
Viens, Tommy, » ajouta-t-elle en se dirigeant vers la porte.
« Eh bien, au revoir, tante Ada, » marmonna Tommy. « Je regrette que tu ne te souviennes pas de moi. » Tante Ada resta silencieuse jusqu'à ce que Tupence et Mademoiselle Paccard soient sur le seuil de la chambre. Comme Tommy les suivait, tante Ada le rappela.
« Reviens, toi, » dit-elle en élevant la voix. « Je te connais très bien. Tu es Thomas. Tu avais des cheveux roux. Carottes, ils étaient. Reviens. Je veux te parler. Je ne veux pas de la femme. Ce n'est pas la peine de prétendre qu'elle est mariée avec toi. On ne me la fait pas. » « On ne devrait pas introduire ce genre de dévergondé ici. Viens, assieds-toi dans ce fauteuil et parle-moi de ta chère maman. »«
Allez-vous-en » ajouta-t-elle en agitant la main en direction de Tupence qui hésitait sur le pas de la porte. Aussitôt, Tupence disparut. « Elle a ses humeurs ce matin, » constata Mademoiselle Paccard, imperturbable en descendant l'escalier. « Vous savez, il lui arrive d'être parfois très aimable. Évidemment, c'est difficile à croire. »
Tommy prit place dans le fauteuil que lui avait assigné tante Ada et lui fit gentiment remarquer qu'il ne pouvait pas lui raconter grand-chose à propos de sa mère, vu que celle-ci était morte depuis près de 40 ans. Cette déclaration ne troubla pas le moins du monde tante Ada.
« Il y a si longtemps que ça ?»«
Comme le temps passe, » ajouta-t-elle en l'examinant. « Pourquoi ne te maries-tu pas ? Trouve-toi une gentille petite femme à la hauteur pour s'occuper de toi. »
Tu prends de l'âge, tu sais. Arrête de promener avec toi toutes ces créatures de mauvaise vie et de les faire passer pour tes épouses.
La prochaine fois, il va falloir que je demande à Tupence de venir avec notre acte de mariage.
Tu as fait d'elle une honnête femme, c'est ça ?
Nous sommes mariés depuis plus de 30 ans, répliqua Tommy. Nous avons un fils et une fille qui, eux aussi, sont tous les deux mariés.
Le malheur, déclara Tantada, changeant prestement son fusil d'épaule, c'est qu'on ne me dit jamais rien. Si tu m'avais tenu au courant...
Tommy s'abstint de la contredire.
Tupence lui avait donné un jour ce précieux conseil. Si quelqu'un de plus de 65 ans t'accuse de quoi que ce soit, ne discute pas. N'essaie pas de lui prouver que tu as raison. Présente-lui aussitôt des excuses. Dis-lui que tu es le seul coupable, que tu es désolé et que tu ne recommenceras plus jamais.
Il venait de lui revenir à l'esprit que c'était indubitablement la ligne de conduite à tenir avec Tantada, comme cela l'avait d'ailleurs toujours été.
« Je suis vraiment désolé, Tantada. Je crains fort qu'avec le temps, on ait tendance à oublier. Tout le monde ne peut pas, comme toi, posséder une aussi extraordinaire mémoire du passé, déclara-t-il sans rougir. »
Tantada se rengorgea.
« Il y a du vrai dans ce que tu dis. Excuse-moi de t'avoir reçu si peu aimablement, mais je ne tiens pas à me faire rouler. Ici, on ne sait jamais. Il laisse entrer n'importe qui, absolument n'importe qui. Si j'écoutais ce que les gens prétendent être, il y en a peut-être qui ont l'intention de me voler ou de m'assassiner dans mon lit.
Oh, il y a peu de chance, hasarda Tommy.
On ne sait jamais, riposta Tantada, avec tout ce qu'on lit dans les journaux, sans compter ce que les gens vous racontent.
Oh, je ne crois pas tout ce qu'ils me disent, mais je me tiens sur mes gardes.
Imagine-toi qu'ils m'ont amené un drôle de bonhomme l'autre jour, quelqu'un que je n'avais jamais vu qui prétendait être le docteur Williams, le nouvel associé du docteur Murray, soi-disant parti en vacances.
Nouvel associé.
Qu'est-ce qui me prouvait qu'il était son nouvel associé ? Il le disait, oui, un point c'est tout.
Et il l'était ?
Eh bien, répondit Tantada légèrement gêné d'avoir à céder du terrain, en fait, il l'était, mais personne n'aurait pu le jurer. Il arrive comme ça, en voiture, avec cette espèce de petite boîte noire que les médecins promènent partout pour vous prendre l'attention ou je ne sais quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que n'importe qui peut entrer ici, déclarer qu'il est médecin, et aussitôt toutes les infirmières vont se mettre à minauder, à glousser avec leur « Oui, docteur, bien sûr, docteur, tout au garde à vous, les idiotes !» Et si la malade jure qu'elle ne le connaît pas, elles prétendront qu'elle l'a oublié parce qu'elle oublie tout.
« Moi, je n'oublie jamais un visage !» affirma Tantada avec force.
« Cela ne m'est jamais arrivé !»«
Comment va ta tante Caroline ? Il y a un moment que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Tu l'as vue dernièrement ?»
Tommy répondit, s'excusant presque, que la tante Caroline était morte depuis 15 ans. Ce décès ne parut pas affliger Tantada outre mesure. Après tout, tante Caroline n'était pas sa sœur, simplement sa cousine Germaine.
« On dirait que tout le monde meurt !» remarqua-t-elle, non sans une certaine délectation. « Petite santé, voilà leur problème. Cœur faible, thrombose coronarienne, tension, bronchite chronique, arthrite, rhumatisme et toute la panoplie. Des petites natures, tous autant qu'ils sont. Et voilà comment les médecins gagnent leur vie. En leur prescrivant des boîtes et des boîtes, des flacons et des flacons de comprimés. » Des comprimés jaunes, des roses, des verts et même des noirs, que ça ne m'étonnerait pas. Berk ! De mon temps, on nous donnait de l'huile de foie de morue. Pas pire qu'un autre comme remède. Quand il fallait choisir entre aller bien ou avaler de l'huile de foie de morue, on choisissait toujours d'aller bien, constata-t-elle en hochant la tête avec satisfaction. On ne peut pas vraiment se fier aux médecins, n'est-ce pas ? En tout cas, pas en matière professionnelle. Ils ont toujours de nouvelles marottes. Et il paraît qu'on en a empoisonné plus d'une ici.
Pour fournir des cœurs aux chirurgiens, d'après ce qu'on m'a dit.
Personnellement, je n'en crois rien.
Mademoiselle Packard ne marcherait pas dans la combine, ce n'est pas son genre.